Leçon numéro 90. Les questions de l'homme et les réponses de Dieu. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission « Le chemin de la justice ». Nous remercions tous ceux d'entre vous qui nous ont écrit et posé des questions sur ce que les Écritures Saintes enseignent. Aujourd'hui, nous voulons faire quelque chose d'un peu différent de ce que nous faisons habituellement. Nous aimerions partager avec vous quelques-unes des questions que nos amis auditeurs nous ont posées. Nous consacrerons les deux prochaines émissions à ces questions et nous essayerons de répondre à chaque question en nous basant uniquement sur les Écritures Saintes. Car la parole de Dieu est la seule lumière sûre qui puisse nous guider dans les ténèbres. Comme il est écrit dans le Zabour.
Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.
Maintenant, regardons vos questions. La première question reçue dans une lettre est la suivante. Vous qui produisez ces émissions, Le chemin de la justice, quelle est votre religion? Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Le Coran nous appelle Ehli Kitab, ce qui signifie le peuple du livre. D'autres nous appellent chrétiens, ce qui veut dire le peuple de Christ. En vous disant que nous sommes chrétiens, nous voulons vous rappeler que beaucoup de gens disent être chrétiens, mais cela ne veut pas dire qu'ils font vraiment partie du peuple de Christ. Comme nous l'avons déjà vu, Jésus-Christ a dit.
Matthieu chapitre 7, verset 21. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
En ce qui concerne les gens qui préparent ces émissions, nous pouvons vous dire tout simplement que Dieu nous a mis à cœur il y a longtemps de chercher à connaître la vérité. Nous voulions connaître pour nous-mêmes la parole du Dieu vivant. Et en étudiant la Bible, c'est-à-dire la Torah, le Zabour, les écrits des prophètes et l'Injile, nous avons compris que Jésus-Christ, qui est né d'une vierge, est le Saint Sauveur dont tous les prophètes ont parlé. Jésus est le sacrifice final et parfait que Dieu a donné pour payer une fois pour toutes la dette provoquée par le péché des enfants d'Adam, afin que quiconque croit en lui puisse vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes disciples de Jésus. Et nous pouvons vous dire aussi que nous ne regrettons pas d'avoir cru en lui, car par lui nous avons une merveilleuse communion avec Dieu. Nous sommes confiants face à la mort, et chaque jour il nous montre sa fidélité et son amour. En Jésus-Christ, Dieu nous a donné tout ce qui se rapporte à la vie éternelle. Nous avons en lui tout ce dont nos cœurs ont besoin. La deuxième question est une question importante et mérite une réponse claire. Cette personne dit, « Il y a quelque chose qui me trouble vraiment. J'ai lu dans le Coran que notre prophète Mohammed commande à tout musulman de croire les livres qui se trouvent dans la Bible, c'est-à-dire la Torah, le Zabour et l'Injile. Et dans mon cœur, je veux bien croire la bonne nouvelle du Messie proclamée dans la Bible. » Mais mes amis me disent que nous ne pouvons plus croire la Bible parce qu'elle a été modifiée. Ils prétendent que la Bible qui existe aujourd'hui est différente de la Bible originale. Qu'en dites-vous? Nous vous remercions beaucoup d'avoir posé cette question que nous entendons souvent. Beaucoup de gens dans le monde pensent qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans la Bible parce qu'ils ont entendu dire qu'elle a été modifiée. La question que nous avons est donc, cette accusation est-elle vraie? La Bible a-t-elle été falsifiée? Avant de répondre à cette question, nous voudrions nous aussi poser quelques questions à ceux qui prétendent que les livres anciens des prophètes ont été falsifiés. Vous dites que la Bible a été modifiée, mais dites-nous, où avez-vous pris cette idée? Ceux qui disent cela, sur quelle base s'appuient-ils? Quand a-t-on modifié la Bible? Qui l'a modifiée? Où l'a-t-on falsifiée? Quels changements ont été faits? Comment le savez-vous? Où en est la preuve? Bref, Ce que nous pouvons vous dire, c'est que si vous cherchez sincèrement la vérité, vous comprendrez que l'idée que la Bible a été falsifiée est sans fondement. Ceux qui disent cela se basent sur des rumeurs sans fondement. Ils n'ont aucune preuve que la Bible originale a été modifiée. Au contraire, il y a beaucoup de preuves qui montrent que la Bible n'a pas été modifiée. Si vous êtes honnête et si vous faites des recherches sur la Bible, vous découvrirez que Dieu le Tout-Puissant a protégé la Sainte Parole qu'il avait inspirée aux prophètes pour qu'ils l'écrivent dans la Bible. Aujourd'hui, dans les grands musées et les grandes universités du monde, des savants ont conservé à peu près 24 000 livres anciens, des manuscrits et des rouleaux de l'Injile, c'est-à-dire du Nouveau Testament. Ces livres existent des centaines d'années avant l'époque de Mohammed. En ce qui concerne l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah de Moïse, le Zabour et les écrits des prophètes, sachez que les livres qui ont été conservés existaient plus de 400 ans avant Mohammed. Et si vous comparez ces livres anciens avec ceux que nous avons dans les mains aujourd'hui, vous verrez qu'ils sont identiques. Dieu a préservé sa parole. Les prophètes ont écrit les paroles de Dieu sur des rouleaux faits avec la peau d'animaux ou avec les fibres de plantes. Les scribes juifs ont ensuite copié la parole de Dieu sur de nouveaux rouleaux. Ces scribes étaient bien formés et extrêmement attentifs pour s'assurer que toutes les copies étaient identiques aux originaux. On comptait le nombre de lettres de chaque livre et on notait quelle était la lettre du milieu pour être sûr que la copie était identique à l'original. S'il y avait une erreur, le rouleau entier était détruit. Ces scribes juifs croyaient que falsifier la parole de Dieu, c'était s'attaquer à Dieu lui-même. Peut-être que vous avez entendu parler des fameux manuscrits de la Mer Morte découverts en 1947. Saviez-vous que ces manuscrits de l'Ancien Testament ont été copiés une centaine d'années avant la naissance de Jésus? Et pourtant, ces manuscrits anciens sont cohérents avec d'autres copiés un millier d'années plus tard. La parole de Dieu n'a pas été altérée. Personne ne peut modifier la Bible parce que depuis le début, il y a des centaines et des centaines de manuscrits de la Bible que des scribes professionnels ont écrits avec beaucoup de soin. Si quelqu'un avait voulu changer la Bible, il aurait fallu qu'il change tous les exemplaires de la Bible. C'est ce qui est impossible. Sachez aussi qu'après l'époque du Christ, des savants ont commencé à traduire la Bible dans beaucoup de langues différentes. Personne n'aurait pu changer toutes les Bibles dans le monde entier. Cela aurait été impossible. Et aujourd'hui, la Bible existe en entier ou en partie dans plus de 2000 langues différentes. Le Seigneur Dieu a préservé sa parole et ses serviteurs la traduisent dans les langues des différents peuples du monde, parce que Dieu veut que tous l'entendent de leur oreille, la comprennent dans leur esprit, la reçoivent dans leur cœur et soient sauvés. Chers amis, vraiment quiconque dit que la parole de Dieu a été modifiée insulte Dieu. Il parle contre Dieu en disant qu'il est incapable de protéger sa parole. Oui, nous sommes conscients qu'il y a quelqu'un qui veut changer et falsifier la parole de Dieu. C'est le diable. Dans la Torah, nous lisons que Dieu a dit à Adam.
Genèse chapitre 2, verset 17. Le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras.
Mais Satan, qu'a-t-il dit à Adam et à Ève? Il a dit le contraire de ce que Dieu avait dit. Il a dit.
Genèse chapitre 3, verset 4. Vous ne mourrez point.
Satan a ainsi essayé de modifier la parole de Dieu. Et comme vous le savez, Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan. Mais en fin de compte, tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait dit. Ce jour même, Adam et Ève sont morts dans leur âme, et leurs corps ont commencé à flétrir et à mourir. Satan est menteur. La parole de Dieu est vraie. Satan s'est trompé les gens en leur disant, « La Bible a été modifiée. » Mais cela ne veut pas dire qu'elle a été modifiée, car le Seigneur Jésus lui-même a dit,
Jean chapitre 10 verset 35 et Matthieu chapitre 24 verset 35. L'écriture ne peut être anéantie. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
La troisième question est, pourquoi appelez-vous Jésus le Fils de Dieu? Dieu n'engendre pas et il n'est pas engendré. Alors comment Jésus peut-il être son Fils? Nous avons examiné cette question importante plusieurs fois déjà. Hélas, il y a toujours beaucoup de gens qui méprisent ce beau nom Fils de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. D'abord, sachez que ce n'est pas nous qui avons donné à Jésus ce nom de Fils de Dieu. Nous ne lui avons pas donné ce nom. C'est Dieu qui le lui a donné. Comme nous avons vu dans les Écritures, Jésus a plus de 200 noms pour que nous puissions mieux comprendre qui il est. Par exemple, on l'appelle la porte. Mais cela ne veut pas dire que Jésus est une porte de bois ou de métal. On l'appelle aussi le pain qui donne la vie. Mais cela ne veut pas dire que Jésus est de la nourriture comme le riz au poisson que nous mangeons. Nous avons aussi vu que les prophètes ont appelé le Messie l'agneau de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un mouton. De même, quand Dieu appelle Jésus son fils, cela ne veut pas dire que Dieu s'est marié à une femme et a engendré un fils avec elle. Quiconque pense cela blasphème contre Dieu. Si je sors de mon pays, on m'appellera un fils de Guinée, parce que je viens de la Guinée. Mais cela ne veut pas dire que la Guinée s'est mariée avec une femme et a eu un enfant. De même, Dieu, les anges et les prophètes ont appelé le Messie fils de Dieu parce qu'il vient de Dieu. Jésus n'a pas eu de père humain. Avant même sa naissance, il habitait dans les cieux parce qu'il est le Kalimatoula, c'est-à-dire la parole qui était avec Dieu dès le commencement. C'est ce que disent les Écritures.
Jean chapitre 1, verset 1, 14 et 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui fait connaître.
Ainsi, nous voyons que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a pris une forme humaine. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Peut-être allez-vous répondre que la parole de Dieu est ce que Dieu a inspiré aux prophètes pour qu'ils l'écrivent. Vous avez raison. Les écrits des prophètes sont comme des lettres que Dieu nous a envoyées. Mais permettez-nous de vous demander, si vous avez un bon ami qui habite dans une autre ville, que préfériez-vous? Qu'il vous envoie seulement des lettres ou qu'il vienne en personne vous visiter. Oui, vous préféreriez qu'il vienne lui-même pour que vous puissiez bavarder directement avec lui. Or, si Dieu est grand et que rien ne lui est impossible, qu'il veut se faire connaître à tous et veut nous faire connaître sa volonté, pensez-vous qu'il ne fera que nous envoyer des lettres ou bien croyez-vous qu'il viendra nous voir en personne? Chers amis, la bonne nouvelle annoncée par les prophètes, c'est que Dieu lui-même allait venir visiter l'humanité pécheresse. Et dans l'Injile, nous découvrons que Dieu a envoyé sa parole, son âme, l'objet de toute son affection, pour prendre la forme d'un homme et pour vivre parmi les hommes. Cette personne est Jésus-Christ. Et que cela vous plaise ou non, Dieu l'appelle son fils et dit à son sujet.
Matthieu chapitre 17 verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Jésus est digne d'être appelé le Fils du Très-Haut, car il est la parole qui était avec Dieu dès le commencement, et qu'il est l'exacte représentation de Dieu, révélant ainsi le caractère de Dieu aux hommes. Celui qui voit le Fils sait comment est le Père, et celui qui connaît Jésus sait comment est Dieu. Ainsi, l'Écriture dit, Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Merci pour votre attention. S'il plaît à Dieu, dans la prochaine émission, nous continuerons à répondre à d'autres questions. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez réfléchir à cette parole de la Bible.
Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.